Ah, restez là parce que dans les prochaines minutes, on aura notre scientifique Normand Voyer qui va venir faire un tour en studio pour quelques minutes. Puis à chaque fois que Normand passe, ben c'est comme la bonne humeur incarnée. Oui. On a toujours le gros sourire d'en face, mais juste avant, il se passe des choses dans l'actualité, Pascal.
Ben oui. Premièrement, vous dire que si vous êtes dans le coin de Place Laurier, manifestation, solidarité, mais des fois, on a peur que ça déborde, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de présence policière à l'intérieur de Place Laurier. On a peu d'informations. Si vous en avez plus, 418-971-1021. Aussi, ce que je dois vous dire, c'est qu'un peu avant d'entrer en onde, on apprenait que les policiers de Québec ont fouillé un entrepôt d'ici, à Québec. Et toute une surprise quand même, parce qu'on s'est mis à ouvrir des caisses de salade, de la laitue. Puis finalement, c'était pas juste de la laitue, mon beau Yannick, c'était pour le grand plaisir de bien des gens qu'on pourrait peut-être nommer dans la catégorie à arrêter. Mais on a trouvé 15 kg de substances qui s'apparentent à du cristal meth. Ça, je te dirais, c'est pas bon pour la santé des temps, mais ça a été dissimulé à travers de la laitue. Je sais pas s'il y avait un 2 pour 1 là-dedans.
Mais comment on fait pour dire que ça s'apparente à du cristal meth?
On n'est pas encore sûr, il n'y a pas eu les tests laboratoires
dessus.
C'est
pas comme dans le flic de Beverly Hills, il rentre son couteau de poche, ouais. Il rentre ça dans le sac, puis après ça, il goûte.
Non, il paraît que c'est pas de même que ça se passe. C'est plus de même, c'est peut-être
ça. C'est pas une mauvaise nouvelle.
Il y en a qui ont peut-être tombé au combat en faisant cette technique-là. Mais bon, c'est à l'entrepôt du 2525 Avenue Watt. C'est vers 7h ce matin qu'on a commencé à fouiller. Il y a des informations qui sont entrées comme quoi on est venu avec un petit sac, puis finalement, on s'est dit, ouais, ça va prendre 50 chars de police. C'est un travailleur qui a découvert des petits sacs de poudre emballés avec des bacs de laitue. Donc, drogue automatiquement saisie. Elle sera analysée en laboratoire. On veut identifier la nature exacte, mais comme je vous disais, ça s'apparente à du cristal meth, ce qui n'est pas nécessairement très apprécié à ce que ça circule par ici. Si je vous donne plus d'informations qui ne sont pas sorties des policiers, ben là, c'est sûr que c'est pas drôle parce que des gens qui se seraient peut-être fait avoir dans cet achat-là, qui ne savaient pas si les boîtes étaient pleines, il y a des gens qui sont inquiets de ça aussi parce que c'est une entreprise quand même qui roule. Il va falloir faire une enquête là-dessus. Mais ils ont rencontré bien des gens qui travaillent, bien des propriétaires, ceux qui sont dans toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'aux dites boîtes dans l'entrepôt. Et on s'inquiète des représailles pour certains commerçants parce que c'est pas toujours su, hein, des gens qui ont la dite entreprise. Des fois, tu as un entrepôt qui est laissé débarrer.
Ouais, ça se peut que ce soit des employés à l'interne.
Là. C'est ça, puis il y a des gens qui en ont profité. Là.
Exact.
Voilà.
Hey, notre ami Normand Voyer, le scientifique de l'Université Laval, qui est prof aussi. En fait, je pense que pendant un an, tu as pris un petit break. Là.
Non, en fait, j'ai reporté ça. C'est, je vais être en année d'études et de recherche.
Une année d'études et de recherche.
C'est beau, hein? Quand
un jeune homme.
Non, mais c'est vrai, ça se dit, parce que c'est plus ça. C'est pas une année sabbatique que tu
fais. C'est-tu dans le Nord encore, Normand?
Oui, toujours. Ben, pas là. Je suis ici avec vous autres.
Ça m'apparente à être vrai. En apparence, ça.
Non, je ne me suis pas encore cloné, puis je pense pas que mes étudiants veulent que je me clone. Ouais.
Tripes-tu encore autant à partager ta passion, Normand?
Ah, tout le temps.
Ouais.
Ah, c'est tellement fun. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui nous garde, qui nous donne le feu sacré, de voir les gens qui... Ah, wow, tu apprends des choses, tu peux transmettre ta passion. Tu sais, aujourd'hui, ce matin, c'était un de mes étudiants au doctorat qui faisait son séminaire de doctorat. Là, puis c'est tellement le fun de voir ça. C'est tellement le fun de voir qu'il y a de la relève scientifique. Ouais. Il y a des gens qui s'occupent. Puis qui
tu as contribué à la carrière de certains.
Oui. Je suis vraiment content. J'ai une centaine d'étudiants là, déjà que j'ai formés.
On prend-tu encore au sérieux? Parce que le choc qu'il y a eu avec tout ce qui est scientifique, expert, durant la pandémie, a quand même été assez brutal. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un certain... maintenant, doute dans la tête de
non,
personne?
Non, absolument. C'est même le contraire.
Okay.
C'est même le contraire. Je dirais que de plus en plus, les scientifiques s'engagent dans l'espace public. Puis quand les scientifiques, là, parlent, par exemple, vous savez, le gouvernement, là, il y a une commission là, sur les changements climatiques, etc. Ouais. Bien, quand il y a un scientifique, là, comme là, il y a deux scientifiques qui ont claqué à la porte du comité, ça fait des remous, là. Ça fait des remous. Puis de plus en plus, il y a des scientifiques en chef dans certaines municipalités. Il y en a à la ville de Laval. Il y en a un peu partout. Puis il y a de plus en plus des scientifiques qui conseillent nos élus sur certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'ils écoutent, là. Ça, c'est une autre affaire, ça. Mm-hmm. Mais c'est super important d'écouter la science, d'écouter ce que les scientifiques ont à dire. Puis des fois, ça permet d'éviter de faire des erreurs.
Oui, puis ce qui pouvait m'agacer aussi, il y a de ça quelques temps, surtout pendant le temps de la pandémie, en Europe, j'écoutais des shows télé, puis parlait de la pandémie, on mettait un scientifique en débat avec quelqu'un qui avait des croyances plutôt que des connaissances. Et on les présentait à peu près sur le même niveau d'égalité de connaissances, alors que ça n'avait aucun sens de mettre en débat l'un et l'autre. Le scientifique était là pour rapporter ce que lui savait, ce qui avait été prouvé, versus l'autre qui allait avec ses propres croyances. Puis on faisait un show de télé avec ça. C'était épouvantable.
L'idée, c'est pas de convaincre les gens, c'est d'informer les gens. Après ça, les gens sont responsables de se faire leur propre idée. Les gens sont intelligents, les gens sont capables de se faire une propre idée, mais il faut leur présenter les informations, comment ça se passe, comment ça va. Si je te dis que je vais dans le Nord, là, tu me parlais du Nord, là. Oui. En cinq ans, je vais au même endroit, là, puis il y a un petit arbuste qui a poussé là, sur, je dirais, une centaine de mètres. Okay? Cet arbuste-là, là, il pousse pourquoi? Parce que ça se réchauffe, parce que la température, le Nord, c'est l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur la planète.
Okay? Est-ce que c'est automatiquement inquiétant?
Oui, c'est automatiquement inquiétant parce que ça débalance totalement la chaîne écologique. En dessous, il y avait des lichens. Okay? Les lichens, ils ne poussent plus parce qu'il n'y a pas de lumière. Okay? S'il n'y a pas de lichens, ben les caribous, ils ne viennent plus. Les caribous, ils ne viennent plus. Quand c'est ta viande que tu manges au long de toute l'année, tu es dans le trouble. Les petits fruits, ben, ils ne font plus de fruits. Les petites plantes à fruits, ils n'en vont plus parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Tout ça, ça change complètement le mode de vie.
C'est pas remplacé par d'autres fruits ou d'autres plantes qui pourraient pousser à ces endroits-là.
Non. Ça change complètement la dynamique des écosystèmes. Et ça, quand tu changes ça, ça prend des centaines d'années avant de s'équilibrer. Les plantes médicinales. Okay. Les plantes médicinales qui poussaient au sol, là, qu'est-ce qui arrive quand tu as un petit arbuste qui te... Bien, elle ne pousse plus, la plante médicinale. Fait que là, tu ne peux pas dire, ben, je vais attendre qu'elle pousse un peu plus loin. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend des centaines d'années avant que l'équilibre arrive. Donc, ça change beaucoup. Hey, l'été passé, j'étais à Coudjoie-Rapic, Wapmatchtou.
Okay. Bon,
écoutez,
bon.
Ça. Ouais. Écoutez ça, c'était l'endroit le plus chaud au Canada, il faisait 33 degrés. Ben. 33 degrés le long de la baie du Tson. Qu'est-ce que tu fais en juin à 33 degrés là-bas? Tu fermes les écoles, tu fermes tout. Je disais, personne n'est capable de supporter ça. Les écoles sont faites avec des fenêtres pour que la lumière du jour réchauffe l'école.
Parce ça vous donne qu'on avait besoin de ça auparavant.
Ben oui, parce qu'on a toujours besoin de ça. Parce que c'est normal. Si je te dis, je vais te faire une maison dans le Nord, je vais l'orienter pour que le soleil, l'hiver, puisse... Voilà, c'est simple. L'été, là, c'est devenu comme ça, là.
Okay. Non, c'est un fou.
Hey, je regardais le sujet du jour aujourd'hui. Je me suis dit, écoutons, j'ai-tu un nouveau gars de sport? Tu voulais me parler de la chimie du hockey?
Hey, non, mais c'est parce que c'était le début hier. Ouais. Je sais pas si vous avez ben, c'était pas hier, là. C'était avant hier, là, qu'il y avait une game très intéressante. Salt Lake City, là, du Utah.
Ah ouais, moi, j'ai regardé la game canadien contre Toronto.
Je l'ai pas écouté, moi. J'ai
vu que ma blonde était sur son cellulaire. Je me suis dit, je vais changer le pas, ça se rendra pas compte de grand-chose. Puis finalement, j'ai réussi à écouter la game au complet. Est-ce que c'est vrai, Normand, que la Coupe Stanley, c'est le trophée le plus difficile au monde à atteindre en raison du nombre de matchs que tu as à faire? C'est 82 matchs, ben plus les matchs préparatoires.
Mais là, ça prend un gars de statistique. Là,
plus les rondes avant d'arriver à la finale de la Coupe Stanley.
Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. On pourrait dire la même chose. Là,
dans quel autre sport, tu as des coups de bâton, des mises en échec, des commotions
cérébrales? La NFL, là, tout est basé. C'est difficile parce qu'une année, tu as beau avoir le meilleur corps arrière, il se blesse et c'est fini.
Tu joues pas 7 matchs contre la même équipe là, pour atteindre la Coupe Stanley dans la NFL. Là.
Tu
parles en termes de longévité dans le temps.
Parce qu'une saison de hockey, c'est long en sacrifice.
Ça fesse bien plus au foot.
Ben non.
Non, je sais pas.
Mais régulièrement, oui, c'est le jeu. Voyons.
Mais de plus en plus, ce qui est plus, moi, je pense que de plus en plus, ça donne... On l'a vu aux Olympiques, là. La science et la technologie, ça donne des avantages à ceux qui sont capables d'en bénéficier. Je veux dire, juste les maillots permettent de gagner une seconde dans la piscine. Tu sais, je veux dire, fait qu'il y a des pays qui sont pas capables... Non, mais c'est vrai, seconde, c'est tout, là. Quand pour une nageuse, là, pour un nageur, là, aux Olympiques, une seconde, c'est comme...
Une seconde, ça va être 5 ans d'entraînement pour t'améliorer, pour te rendre là.
Puis c'est ça qui fait que tu finis 13e ou tu finis ni premier. Tu sais, ça peut être autant que ça. Puis dans le sport, c'est pareil. Le hockey a énormément évolué là, en termes de vitesse. On parle souvent, là, dans mon temps, c'était ci, dans mon temps. Non, non, mais aujourd'hui, là, ça va vite.
C'est quand tu regardes des anciennes images, hein, que tu te rends compte à quel point aujourd'hui, ça va vite. Nous autres, on avait ça, on écoutait ça en 80, puis on avait l'impression que ça allait super vite aujourd'hui.
Particulièrement pour l'équipement. Là, l'équipement, ouais, aujourd'hui, là, c'est vraiment... Maintenant, on parle de Kevlar, on parle de polycarbonate. Juste les casques, là, c'est fait maintenant pour minimiser les impacts. Là, on parle beaucoup des commotions cérébrales. Là. Je vais essayer de rassurer là, les parents qui écoutent. Là, de plus en plus, là, on réussit à faire des matériaux pour le casque. Là. Il est super résistant, polycarbonate. Tu as vu un casque de hockey cassé, toi?
Non.
Ça ne casse pas souvent, hein, le polycarbonate. C'est avec ça qu'on fait aussi là, les hublots d'avion. Okay? Donc, c'est vraiment extrêmement résistant.
T'as un hublot d'avion sur la tête quand tu joues au hockey. C'est quand même pas bien.
Non, mais la visière, c'est le même matériau. Le même matériau.
Que okay? La fenêtre que tu
passes. Absolument.
Mais qui semble si sensible.
Sensible?
Mais pas celle de l'extérieur, mais celle de l'intérieur.
La fenêtre de l'avion, tu parles?
Oui.
Okay. Non, mais là, je parle de celle-là de l'extérieur. Là.
Oh, oui,
en polycarbonate, là, c'est presque impossible à casser. C'est vraiment presque impossible à
Qu'est-ce
casser.
Qu'est-ce qui pourrait la casser?
Bien, c'est surtout quelque chose qui va arriver dans un point extrêmement précis. Là. Ça, tu peux peut-être briser ça.
Parce mais que c'est quand même assez flex. Là. Si je prends une visière de hockey, là, visière de casque de hockey...
Il en casse comment?
J'ai déjà reçu... C'est rare. D'habitude, c'est les vis qui pètent.
Ben oui,
j'ai déjà reçu une rondelle en pleine poire, puis c'est la visière qui m'a sauvé la vie. Là,
absolument.
Elle a plié, puis après ça, la rondelle est repartie de l'autre bord.
C'est ça, je trouve, mettons, visuellement, là, dans sa flexibilité, je trouve qu'elle a l'air de pouvoir se casser.
Bon, ben là, elle a une résistance à la déformation, mais elle a une résistance à la rupture.
Ils n'ont pas pensé à faire des vides de Jeep Wrangler, de même?
Ben,
si je t'ai écœuré de la remplacer.
C'est juste que ça coûte cher. C'est juste que ça coûte pas mal plus cher.
Pas ça. Plus tu n'en pètes, peut-être qu'au bout du compte, ça coûterait moins cher d'en acheter une super bonne.
Mais t'as pas tort, c'est vrai que ça durerait plus longtemps. Mais pourquoi c'est pas utilisé? C'est que les fenêtres, les pare-brises sont faites de telle sorte que quand ils brisent en millions de petits morceaux pour éviter que tu reçoives des gros morceaux. Il y a aussi ça. Là. C'est peut-être que tu regretterais là, d'avoir un morceau de polycarbonate là, qui fait ça dessus. Mais il y a une affaire qui n'a pas changé au hockey. Les hockey, ça a changé. Les patins ont changé. L'équipement a changé.
La rondelle a changé.
La rondelle n'a pas changé.
Parce que c'était
depuis...
du crottin de cheval dans le temps, normalement.
Ouais, OK, je parle des rondelles en caoutchouc.
Puis il y en a qui voulaient gauler.
C'est vrai, c'est tout à fait...
Les concassés.
On voit que Yannick a une belle connaissance.
Il faisait froid, fait qu'il prenait de la marde de cheval, il la faisait geler, puis après ça, il embarquait avec ça sur la glace.
Il la concassait pas pour pouvoir la remouler.
Puis les gars n'étaient pas capables de faire des lancers frappés comme on est capable de faire aujourd'hui, mais t'avais le goaler qui avait pas de casque, il recevait ça en pleine poire.
Ben, elle t'éclatait d'en face ou...
Ben, là, non, ben, c'était gelé bien dur, là, fait que c'est ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une grande révolution. On a découvert le caoutchouc.
Ouais.
Le caoutchouc, les rondelles de hockey n'ont pas changé depuis 78 ans. Les rondelles, c'est ultra spécialisé.
Ouais.
Et savez-vous que toutes les rondelles, les 150 000 rondelles de hockey à peu près qui sont faites pour la Ligue nationale, sont faites au Québec. En fait, à Sherbrooke.
Ce qu'on sait pourquoi, c'est nous qui avons développé cette technologie-là.
C'est qu'il y avait une entreprise à Sherbrooke qui était capable de faire à partir... Parce que c'est compliqué, hein? C'est super compliqué. C'est standardisé, là, pas d'idée, là. Une rondelle de hockey, c'est standardisé sur le règlement numéro 13 de la Ligue nationale de hockey. C'est 3 pouces par 1 pouce, puis il y a des petites variations, puis ça pèse 155 à 170 grammes. Puis les rondelles de partie, c'est pas les mêmes que pour les pratiques. Quand ils font le warm-up, là, on va prendre le terme. L'échauffement.
L'échauffement.
Quand ils font ça, c'est pas les mêmes rondelles.
C'est pas sérieux?
C'est pas les
pour
mêmes rondelles.
Pour quelle raison, le sais-tu?
Elles sont un petit peu plus lourdes. Non, c'est un règlement. C'est dans le règlement. Non, tu peux pas avoir les mêmes rondelles. Et donc, la rondelle de match, il y en a 48 par partie. Mmh. C'est comme ça. Puis, ils sont conservés 10 jours au congélateur entre 8 et 10 degrés avant chaque partie. That's it.
Ça, hein? C'est-tu breveté? Parce que ce qu'on détient
c'est
quand même, c'est
breveté.
Le
breveté, c'est un secret industriel chez Souci Techno, OK? Rock Forest, là, pour ceux qui connaissent bien Sherbrooke, là, Rock Forest, il y a une usine. Eux autres, ils mélangent du caoutchouc naturel et du caoutchouc synthétique avec du noir de charbon et avec des catalyseurs puis des additifs dans une recette totalement secrète. Okay? Là, ils mélangent tout ça puis ils font une espèce de pâte avec ça qui est super rebondissante. Ça, c'est rien. Là. Après ça, ils vont envoyer ça à leur usine à Saint-Jérôme. Il y a une usine à Saint-Jérôme qui est Souci Baron. Là. Alors, eux autres, ils vont prendre ça, puis là, ils vont le mettre dans un moule qui chauffe.
Hey, on a un épisode de comment c'est fait ici, là, gratuitement. Ben oui.
Écoutez ça, là, ils vont chauffer ça dans un moule qui reproduit les rondelles de la ligne nationale. Tu sais, avec le bord, là, il y a comme un petit rebord, ouais, il y a les logos. Puis là, ils vont faire chauffer ça dans une recette secrète avec telle pression, telle température, etc. Puis là, on va faire la vulcanisation du caoutchouc, une étape cruciale. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est que, tu sais, il est tout rebondissant, etc., mais les rondelles, ils n'ont pas ça. Il faut qu'il y ait le coefficient de rebondissement prescrit par la ligne nationale. Et ça, ça va se faire par la vulcanisation. C'est comme si le caoutchouc, là, j'y mettais des petites épingles dans le milieu, je fais des liaisons chimiques qui vont le maintenir ensemble, puis là, quand j'enlève le moule, elle reste comme ça, et là, elle a le bon coefficient de rebondissement.
Que ce soit parfait. Puis une fois qu'elle est utilisée dans un match, est-ce qu'elle peut être utilisée ou c'est fini?
Non, c'est fini. Ils sont utilisés. Ça dure à peu près 5-6 minutes,
5-6 minutes.
Ben, de match, là, d'habitude.
Oh, oui, mais...
Puis quand ils amènent, dans la chaudière, bien, ils amènent dans une chaudière qui est à en moins 5 degrés comme ça, pour qu'ils gardent la température. Quand ils la mettent sur la glace, il faut qu'elle glisse de la bonne vitesse, etc. Pour comment que ça se passe? C'est à cause de la température de la rondelle. Et puis quand elle arrive sur la bande, bien, elle va rebondir comme ça parce qu'elle a la bonne coefficient de rebondissement. Et ça, il y a seulement Souci Techno qui sait comment faire cette recette-là.
Tu nous en apprends des affaires. Puis je ne savais pas que ce n'était pas les mêmes rondelles qu'en pratique. Non. Les jeunes de ma génération, puis peut-être que tu as connu ça aussi, nous, quand on était jeunes, on s'entraînait avec des rondelles oranges qui étaient plus lourdes que les rondelles de match, qui faisaient en sorte qu'on, quand on pratiquait, on se renforçait sans s'en rendre compte. Puis rendu sur le match, tu arrivais, t'es donc bien légère, cette rondelle-là.
Ça, puis surtout quand tu es complètement gelé, là, tu imagines que quand il y en a là, qui te... Tu sais, sur réception, là, il va à rondelles, là, comme ça. Mmh. Mais ça a vraiment jamais changé. Puis même la façon qu'il les peigne, OK, parce que c'est pas... Ils sont noirs, là, quand ils arrivent là. Il n'y a rien, il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Ça, c'est fait. Ça retourne en estrie chez Sherwood, qui, eux autres, vont le faire la bonne vieille méthode. Vous savez, c'est quoi, de la sérigraphie, là?
Ouais.
C'est de la soie, là, puis tu mets ça. Fait que là, ils vont passer ça, puis ils font, là, il y a une machine qui fait ça automatique, puis ils vont faire ça. Il y en a 48 par partie, puis il y en a par équipe, puis il y en a ça, puis il y en a des spéciales qui vont pour la partie de match, etc. Fait que la rondelle, c'est quelque chose qui n'a pas changé, puis on n'en connaît pas plus que ça, mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment secret, puis c'est fait au Québec, on devrait être fiers de ça.
Puis, tu sais, ils n'ont jamais ajouté de technologie là-dedans, alors que ce serait assez facile pour eux de le faire, d'ajouter une puce qui ferait en sorte que tu pourrais déterminer si le but il est bon ou s'il n'est pas bon.
Ah, dans le sens, rajouter quelque chose d'électronique dedans, ça, c'est tout à fait possible, mais ça va changer le coefficient de rebondissement.
Ça. Mais parce que parfois, les gardiens sont sur la rondelle, puis là, ils se font pousser comme dans le but par leur propre joueur, exemple, ce qui techniquement, le but serait bon parce que c'est pas un autre joueur qui l'a poussé. Mais si tu ne vois pas la rondelle, que ce soit par les reprises vidéo...
Ça marche pas, ça. Non, ça marche pas.
Ben oui.
Parce qu'on saurait maintenant, aujourd'hui, si le but d'aller côté est bon.
mais c'est quand même particulier en 2024 qu'on n'a pas pensé à mettre une technologie à l'intérieur de cette rondelle-là.
Ils y ont pensé, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire.
La Coupe Stanley, ça doit être nécessaire. On dit, hey, es-tu rentré ou pas?
Avec les caméras maintenant.
On voit la reprise vidéo, on la voit pas.
C'est très rare qu'on ne voit pas la reprise vidéo. Là. Ouais. C'est très, très rare. Maintenant, il y a des caméras dans les buts, des caméras partout. C'est vrai qu'on pourrait le faire ça, mais ça changerait la tradition. Un peu comme les bâtons de hockey, là, ça a été changé. Puis, on entend souvent ça. Ah, les bons en bois, là, souvenez-vous comment ce qu'ils pliaient comme faux, etc. Fait que, il y a plein de choses qui ont changé et qui n'ont pas changé. Mais l'important là, dans une équipe, là. C'est pas la rondelle. Hein?
C'est la testostérone.
Non, l'important, là, c'est que la chimie soit bonne.
Oui.
Ça, là, la chimie, là... Non, mais vous êtes juste vous poser la question. Pourquoi on dit toujours qu'il y a une bonne chimie? Tu sais, comme entre Yannick et Pascal, là, vous le voyez pas, là, mais il y a une bonne chimie là ici.
Vous
là,
le voyez
là.
Pas?
Non, mais je parle aux auditeurs.
Ben, là, ils nous écoutent à chaque jour, puis tu penses qu'ils doutent, normalement. Je sais pas pourquoi.
Non, sérieux, on dit souvent ça. Savez-vous pourquoi on dit ça, qu'il y a une bonne chimie?
Non.
C'est tout à fait simple. C'est qu'en chimie, on sait que lorsqu'on va prendre deux substances chimiques qui sont incompatibles, si on prend un acide avec une barre ou un machin, ça fait une réaction violente.
Une Pascal avec un Yannick.
C'est ça.
Ça fonctionne pas. Quand c'est incompatible, tu les mets ensemble, ça fait une réaction chimique exothermique. Ça peut être vraiment dangereux.
Ça explose.
Ben, nous, c'est le cas. Pourquoi ça peut fonctionner des fois d'abord? Comment t'expliques ça,
Chimie? Ben, j'imagine que c'est le 1,50 m qui vous sépare.
c'est la table entre nous qui fait en sorte que c'est pas trop violent.
C'est ça. Puis il faut quand même se déplacer pas mal pour faire le tour. Mais sérieux, là, ça vient, c'est vraiment incroyable. Quand deux substances s'entendent bien, ben, ils vont réagir ensemble pour en former une autre. Puis on dit là-dedans, c'est comme la synergie. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une bonne chimie dans une équipe, parce que plus les joueurs et les joueuses travaillent ensemble, plus ils s'entendent ensemble, plus ils sont capables de se compléter, de complémenter, puis de faire des choses plus grandes que la somme de chacun.
Ouais, c'est franchement intéressant, mais il y a hors de question qu'on transfère nos substances.
Non, non.